France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Porter le même prénom que l'ennemi haï par toute une nation. Pauvre Guillaume, Guillaume Apollinaire. Alors, se lancer dans un grand discours le jour de ses obsèques, ce serait absurde, inconvenant. Apollinaire, grand poète, homme haut, grand, fort, majestueux. Cercueil recouvert d'un drap tricolore. Funérailles éclatantes? Non pas. Apollinaire n'était pas alors le grand poète qu'il allait devenir au fil des ans, lorsque son œuvre serait vraiment lue. Funérailles. Le 11 novembre 1918, vraiment? Ou le 13? Deux jours plus tard. Soyez témoins, une émission d'André Gillois, première diffusion sur la chaîne parisienne le 6 avril 1956.
Soyez témoins, une émission d'André Gillois.
Je me propose aujourd'hui d'évoquer un événement qui est à la fois d'ordre poétique et national. Je veux parler des obsèques du plus grand des poètes français de ce siècle, Guillaume Apollinaire, qui a été enterré le jour même de l'armistice de 1918. Et cette confrontation de deux événements qui chacun en soi était exceptionnel m'a semblé une source assez passionnante pour que je demande aux témoins de ces événements de venir les raconter ici. Du reste, Blaise Cendrars, au cours de ses entretiens radiophoniques, avait parlé de l'enterrement d'Apollinaire. C'est pourquoi je l'ai prié de venir tout d'abord rappeler les souvenirs qu'il a déjà une fois évoqués. Voyons, Blaise Cendrars, voudriez-vous rappeler les phases de cet événement extraordinaire?
Je me trouvais le jour de l'enterrement à Saint-Thomas d'Aquin, avec Raymond et mon ami Fernand Léger. La famille était là, ou plutôt des dames habillées de noir qui représentaient la famille. Il y avait avant tout cette pauvre Jacqueline Apollinaire qui tenait tout juste debout, qui avait une grippe épouvantable, et qu'une chère amie à moi, Madame Eugenia Ruissi, de Rasuris de Santiago du Chili, accompagnait pour la ramener en auto. Et habillé de noir, comme, exagérément, comme on l'est dans des pays d'Amérique du Sud. Il y avait Madame Apollinaire mère, que je n'avais pas l'honneur de connaître, que j'ai vue pour la première fois, vue est une façon de parler, que j'ai à peine aperçue derrière son voile noir. C'était une femme, avait-on dit, très autoritaire, devant laquelle Guillaume tremblait. Elle a fait preuve de son autorité, parce qu'une demi-heure, une heure plus tard, en rentrant du cimetière, elle avait fait apposer les scellés sur l'appartement d'Apollinaire afin que cette pauvre Jacqueline ne puisse pas rentrer chez elle. Elle était mariée. Nous avons été forcés de nous adresser au commissaire de police pour faire lever les scellés. C'est vous dire que l'atmosphère n'était pas très drôle. Il y avait également, comme membre de la famille, un garçon qui s'appelait Max Jacob, qui réellement m'a fait une impression terrible ce jour-là. Il avait l'air d'un diablotin tombé dans le bénitier, dont il émergeait à tout bout de champ, repiquait une tête, allait je ne sais quoi faire derrière les dames en noir, serrait les mains à tout le monde, etc., etc. Enfin, c'était très typiquement Max Jacob, mauvaise langue comme il l'était quand il voulait bien l'être.
Et puisque Raymond était aussi à Saint-Thomas d'Aquin et qu'elle est près de vous en ce moment, est-ce qu'on pourrait lui demander de nous confirmer ce témoignage ou de nous dire plutôt ce dont elle se souvient, elle?
Je me souviens surtout, c'était le plus gros de la grippe espagnole à ce moment-là à Paris et qu'il faisait horriblement froid dans l'église. J'avais à côté de moi Ambroise Vollard, le marchand de tableaux qui a été tué d'un accident d'auto, et il tenait son chapeau melon en auréole parce qu'il avait peur de prendre froid. Et il disait, ce qui est affreux quand on accompagne les amis, c'est toujours les vivants qui attrapent un rhume.
Je vois Vollard comme s'il était là. Réellement, il avait toujours le mot pour rire, si j'ose dire. Enfin, sorti de l'église, le pauvre Guillaume, hissé sur un affût d'artillerie, dûment escorté, comme il était lieutenant de la troupe et de le drapeau, le cortège défila boulevard Saint-Germain, sous les huées de la foule qui huait non pas Guillaume Apollinaire, mais Guillaume tout court, Guillaume le Kaiser. C'était le jour de l'armistice, c'était le lendemain de l'armistice. Les derniers soulographes, les derniers danseurs dans les rues étaient toujours là, et ils poussaient des hurlements affreux. Mais plus terrible était ce que j'entendais chuchoter dans mon dos, et qui fit que je quittais le cortège au coin du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain. Derrière moi, je jetais un petit coup d'œil par-dessus l'épaule et je vis qui de droit déblatérer sur la poésie et surtout sur les jeunes qui se sont bien vengés depuis. Je ne dirai pas de nom parce que j'en dis toujours au bout 10 fois trop. Vu la grippe dont Raymond parlait tout à l'heure, nous sommes entrés dans un bistrot avec Raymond et Fernand Léger. Nous avons bu un antigrippe, c'est-à-dire un grog bien tassé, plutôt double, même triple, et nous avons pris un taxi. Et la chose qui me stupéfie jusqu'au jour d'aujourd'hui, et qui me fait dire qu'Apollinaire n'est pas mort, c'est que, ayant traversé tout Paris en taxi, arrivé au Père Lachaise, le cortège Apollinaire avait déjà disparu. La cérémonie avait eu lieu. C'est Paul Fort qui me dit, écoute mon petit vieux, tu n'as qu'à grimper, tu verras bien là-haut, il y a deux trous, et tu te renseigneras. Or, il y avait bien deux trous. Entre les deux trous, il y avait les employés de chez Borgnol. Je m'adressais au chef de l'équipe qui me dit, écoutez, moi je ne sais pas qui est là. Je dis, bien Apollinaire, Kostrowitski, bien un lieutenant. Il me dit, c'était deux lieutenants. Je ne sais pas quel est Apollinaire, quel est qui n'est pas Apollinaire. Si bien que 5 minutes après l'enterrement, personne ne savait où Apollinaire était loti. Je me suis penché sur les deux tombes, et dans l'une, à moitié bourré de mottes de gazon, il y avait une motte congelée qui avait exactement la forme d'Apollinaire. Et c'est ce qui m'a fait dire, Apollinaire, mes enfants, Apollinaire n'est pas mort. Raymond est témoin de la chose. Jamais plus je ne suis retourné à l'enterrement d'un ami, sauf le mois où j'étais enterré, ce pauvre Fernand Léger, qui était le témoin de la mort d'Apollinaire et qui est mort à son tour. Aussi tristement, parce que c'est jamais drôle, ces histoires de funérailles.
Non, et celles d'Apollinaire ont été extraordinaires du fait qu'elles se sont déroulées dans l'atmosphère d'allégresse des fêtes de l'armistice.
Oui, mais cette allégresse nous retournait complètement. Enfin, les gens sensibles qui escortaient ce pauvre ami.
Bien entendu. Merci, Raymond. Merci à vous également, Blaise Sandrard. André Salmon, vous assistiez à cet enterrement de Guillaume Apollinaire. Est-ce que vous en avez des souvenirs très précis? Est-ce que vous voudriez en tout cas essayer de les évoquer pour nous?
Oui, je les évoquerai douloureusement, vous vous en doutez. Les funérailles de Guillaume Apollinaire ont eu lieu le 13 novembre 1918. Guillaume était mort le 9, c'est-à-dire 2 jours avant l'armistice, et jusqu'à l'instant de ses funérailles, Paris avait vécu dans la fièvre de cette fin de guerre. C'est d'ailleurs à ce moment-là, je crois, que différents mémorialistes en ont parlé, qu'on a entendu dans les rues crier « à bas Guillaume » sous les fenêtres de Guillaume Apollinaire. D'ailleurs, ça s'est produit probablement le lendemain de sa mort, le 10. J'étais présent auprès de Jacqueline, la veuve de Guillaume. Et c'était des jeunes gens qui, autant que je crois ne pas me souvenir, je me souviens très bien, mais que j'ai pu discerner, parce que j'étais comme l'immobilisé, je revenais de la guerre, un militaire d'occasion, et il s'agissait de choses toutes nouvelles pour moi, qui n'étaient pas de l'ancienne armée, mais je crois que c'était des jeunes gens désignés pour Saint-Cyr, dont ils avaient un vague insigne au col, et qui étaient heureux, ils étaient élèves officiers, ne feraient pas la guerre. Ils étaient joyeux, ils passaient en monôme du quartier latin sur le boulevard Saint-Germain, et c'est eux qui criaient à bas Guillaume. Et puis, ça a été tout. Mais les légendes ont une très grande valeur quand ils concernent un homme comme Guillaume Apollinaire, car elles font l'auréole, elles l'illustrent, elles éclairent, mais la vérité se trouve quelquefois un peu déformée. Ceux qui n'ont pas connu Guillaume Apollinaire, leur âge ne leur a pas permis de connaître Guillaume Apollinaire, qu'ils connaissent à travers son œuvre, ce qu'on a pu dire de lui, ont tendance toute naturelle, et je serais comme eux, à imaginer des funérailles éclatantes. Hélas, ça n'a pas été tout à fait ça, pour deux raisons fortes. D'abord, Guillaume n'était pas encore tout à fait le grand homme qu'il est devenu, par la connaissance que l'on a de lui et de son œuvre aujourd'hui. Et puis, beaucoup de ceux qui seraient certainement venus suivre sa dépouille n'étaient pas là, parce que, ou bien ils étaient encore retenus aux armées, bien que la guerre ait été terminée, tout le monde, on n'a pas été démobilisé d'un coup sur le coup de clairon de l'armistice, ça aurait été trop beau. Et puis, il y avait des gens qui... J'étais même injuste à ce moment-là pour certains. J'étais choqué de certaines absences. J'ai jamais écrit quelque chose que je n'ai pas jamais voulu que ça reparaisse dans un livre parce que je me suis rendu compte que j'étais injuste. Un poème que j'avais improvisé et je reprochais, sans nommer personne, à certains de n'être pas là. Mais il y avait d'autres morts. Il y avait des pères, des fils, des enfants, des amants perdus. On avait bien des excuses à ne pas être là.
En dehors de ces circonstances matérielles, en somme, de ces funérailles, vous venez d'aborder le problème qui est le plus important et qui est de savoir justement quel vide a creusé Apollinaire en mourant. Bien sûr, aux yeux de ses amis, des quelques-uns qui étaient là, c'était extrêmement important, mais est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que ça ait un retentissement au-delà de ces quelques personnes ?
Ça, le retentissement a été immédiatement après, et c'est affreux quand on a été l'ami de quelqu'un. Pour moi, Guillaume était un camarade de bataille, si vous voulez, et je l'ai aimé comme un frère. Mais il n'y a pas eu de vide. Au contraire, il lui-même a dit « il faut que tout meure ». Et peut-être tout a-t-il commencé magnifiquement pour lui et ceux qui devaient être ses héritiers par sa mort.
Et vous aviez, vous, l'impression, vous, ses amis, de la place importante qu'il allait prendre?
Ah, certainement, oui, certainement.
Ça, vous l'avez pressenti, vous l'avez su.
Certainement.
Mais vous étiez en cela certainement en opposition avec la plupart des gens, j'allais dire en place, mais enfin la plupart des écrivains de cette époque.
Je ne crois pas.
Il ne me semble pas qu'on était en opposition.
Non, non. D'ailleurs, c'était une époque tellement... Toutes les époques sont différentes les unes des autres, et ça, c'est une des choses dont nous pouvons nous réjouir. Il est très bien que ça soit comme ça. Mais nous-mêmes n'avions été en opposition avec personne, contre personne. Nous n'avions pas contredit tellement les symbolistes. Moi, nous étions arrivés, Guillaume, pour le parler, lui, Guillaume et moi, sommes entrés dans la vie littéraire en 1903, il ne me rajeunit pas, convaincu naïvement qu'une école normalement succédait à une autre et qu'il ne fallait pas faire,
c'est vrai,
et qu'il faut pas faire
c'est
de Faubourg Saint-Antoine en littérature,
non,
alors
j'ai
autre chose.
J'avais 18 ans à la mort de Guillaume Apollinaire et j'étais très amateur d'une chose tout à fait nouvelle. C'était les petites revues d'avant-garde qui étaient fort bien publiées à cette époque. Mmh. C'était pas les premières, il y en avait eu au temps du symbolisme, naturellement. Mais enfin, je me souviens parfaitement que les garçons de mon âge et qui s'intéressaient aux choses de l'art lisaient par exemple une revue très bien éditée qui s'appelait « L'Élan » de Aux Enfants et Le Corbusier, Jeanneret, n'est-ce pas ? Et cette revue, qui est très rare maintenant, publiait dans chaque numéro un poème d'Apollinaire, des dessins de Picasso ou de Derain ou de Léger, ce qui fait que la jeunesse, qui s'intéressait à ces choses-là, eh bien connaissait tout de même l'Apollinaire, l'importance qu'il avait, mais qui faisait en somme partie d'une école, même s'il en était le chef. Comme l'a dit Salmon, la mort d'Apollinaire, c'était pas la mort de la poésie à ce moment-là, car il était épaulé, entouré par d'autres poètes qui avaient, à cette époque-là, aussi grande importance que lui.
Mais moi, je me permets de dire que la mort de Pays, en 1914, on n'a pas eu non plus le sentiment d'un effondrement poétique, ni même, ça n'a pas non,
non
plus
mais
creusé
je veux dire
littérairement que... une espèce de vide dont on pensait qu'il ne pouvait pas être comblé. Parce que pour Peggy, ça a été comme pour Apollinaire, la gloire s'est faite, elle s'est faite peu à peu, n'est-ce pas, sa gloire
a
monté.
Peggy était un homme qui était beaucoup plus connu du grand public qu'Apollinaire.
Je ne crois pas.
Ah, je ne crois pas, je suis de l'avis de Mme Simone.
Croyez,
certainement pas. Je crois qu'il était moins connu qu'Apollinaire.
Certainement. Parce que les journaux quotidiens en 18, n'ont pas beaucoup parlé d'Apollinaire.
Mais vous savez que si...
Sauf l'intransigeant, parce que
Et moi, j'ose dire moi, car le soir de la mort d'Apollinaire, à cette époque-là, je venais d'être réformé, j'étais revenu, et je faisais un journal, un quotidien, qui n'était pas le plus répandu, mais enfin, qui était tout de même un quotidien, et j'avais là-dedans beaucoup de charges, j'étais rédacteur en chef, maître et maître Jacques, je devais tout faire là-dedans, c'était l'éveil du Jacques Dur. J'étais seul à la rédaction, faisant toutes sortes d'articles par nécessité. En plus de ça, il y avait une panne d'électricité. J'ai mis une bougie dans la dernière canette, les fenêtres ouvertes pour voir en même temps passer les cortèges. Et c'est là, ce soir-là qu'on hurlait la joie de l'armistice qui allait venir. Et j'ai fait mon article sur la mort de Guillaume Apollinaire. Et le même jour était mort René Maisonroy. Et il est venu à l'imprimerie, un gamin qui a demandé la morasse. Regardez, ça dit, oh, deux lignes sur Maisonroy et une colonne sur Apollinaire. Ben j'ai fichu la porte.
Mais vous savez, si Peggy n'avait pas écrit « Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre », eh bien certainement, il n'y aurait pas eu autour de sa mort le bruit qu'il y a eu en 1914. Moi, j'en suis persuadée, car il était pratiquement inconnu. Je me rappelle toujours que j'ai obtenu Calmette qu'on publie 3 sonnets, le premier sonnet dédié à Sainte-Geneviève en 1912. Il y a eu 9 désabonnements.
Je voudrais dire quelque chose à quoi je songe en entendant Mme Simone évoquer en même temps que nous évoquons la mort d'Apollinaire, la mort de Peggy. Il y a une chose que ceux qui veulent se donner une vue des funérailles d'Apollinaire ne peuvent pas apercevoir, qui était une chose affolante, déconcertante pour nous et très naturelle en même temps, c'est le caractère militaire de ces funérailles. À la porte du 202 du boulevard Saint-Germain, quand on a amené le corps, il y avait la 12 territoriaux. La figure encore très 1900, moustachu, commandé par un officier également de l'orage, très moustachu lui aussi. Je ne savais pas très bien qui on enterrait, c'était un officier. C'est le commandant de ces territoriaux, un lieutenant, a été parfait. Et il n'y a pas eu de commandement, il avait probablement prévenu ses hommes d'un signe de tête. Il a donné son ordre et on a présenté les armes à Guillaume Apollinaire. Il y avait là quelque chose d'assez affreux, d'assez déconcertant, et il faut bien dire, étant donné tout ce qu'avait rêvé sur le plan de la guerre Apollinaire, qu'Apollinaire aurait été très content.
Monsieur André Billy, qui était un ami de Guillaume Apollinaire et qui a assisté à ses obsèques, a bien voulu nous apporter son témoignage. Monsieur André Billy, voulez-vous nous rappeler cet événement?
Je voudrais dire d'abord qu'aucune mort, si ce n'est celle de mes proches, ne m'a causé plus de chagrin que celle d'Apollinaire. Elle a été pour moi un véritable désastre. Ça a été comme si mes meilleures raisons de vivre m'avaient été retirées, comme si le jour avait tout à coup perdu sa lumière. Apollinaire a donc été un être si extraordinaire, me dit-on souvent, avec une pointe d'étonnement. C'est vrai, sa parole, son rire, ses inventions dans l'art de vivre transfiguraient tout. On s'est souvent trompé sur la date de ses obsèques. On les a situées le jour de l'armistice. Non, le jour de l'armistice, j'étais assis avec un autre de ses plus chers amis, le poète René Bizet, à la terrasse du café Weber, rue Royale. Et pendant que la foule parisienne, hurlante, délirante d'allégresse, défilait devant nous, attelée aux canons allemands qu'on avait exposés place de la Concorde, nous pleurions, Bizet et moi. Et ce n'était pas de joie, je dois l'avouer, c'était de tristesse. Nous pleurions sur la mort d'Apollinaire. Il n'a pas été enterré non plus le lendemain de l'armistice, qui était le mardi. Le cercueil, on l'avait enfermé dès le lendemain de sa mort, c'est-à-dire dès le dimanche au matin, ce qui m'empêchait de le revoir une dernière fois, nous attendait déjà à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Nous nous y sommes tous retrouvés le mercredi 13 pour le dernier adieu. Apollinaire habitait non loin de là, boulevard Saint-Germain, dans un appartement qui lui aussi fait partie de sa légende, mais qui est encore le sien, car sa femme Jacqueline y habite toujours et elle en a respecté l'aménagement et le décor. Les livres, les tableaux de Guillaume sont toujours là. C'est pour moi un des endroits les plus émouvants de Paris, qui en a pourtant beaucoup. À l'église, bien entendu, la cérémonie n'a rien eu de particulier, si ce n'est l'émotion extraordinairement intense, la consternation des assistants. Au premier rang desquels, on remarquait deux officiers en uniforme, deux officiers de service, si l'on peut dire, venus pour honorer leurs camarades défunts. Le cercueil était recouvert d'un drapeau tricolore, et sur ce drapeau avait été déposé un képi de lieutenant tout neuf, un képi à deux galons, que Guillaume, qui n'était encore que sous-lieutenant, avait acheté d'avance, tant il était impatient de se voir promu à un grade supérieur. Trait assez remarquable de l'esprit militaire dont il était imbu, on peut le dire héréditairement. Le cortège se mit donc en marche, peu avant l'heure du déjeuner. Madame Apollinaire et sa belle-mère Angélique de Kostrovitsky marchant en tête avec les deux officiers anonymes. Je ne reviendrai pas une fois de plus sur l'étrange contraste que formait avec le cortège funèbre la foule du quartier latin, encore soulevée d'enthousiasme par l'armistice signé l'avant-veille et qui déroulait des farandoles à travers les rues. On chantait « Conspue Guillaume » et il fallait pas qu'il y aille, il fallait pas qu'il y aille, c'était une ironie assez pénible. Mais Guillaume aimait tellement tout ce qui sortait du banal et de l'extraordinaire, tout ce qui proclamait la beauté de vivre, qu'il en eût été certainement ravi. Il n'y eut pas de discours, et ma foi, je ne verrais rien à évoquer de la cérémonie du cimetière si je n'avais été frappé par l'attitude de la mère du poète, à qui un croque-mort avait remis machinalement le beau képi à deux galons, le beau képi tout neuf, qu'elle avait reçu machinalement elle aussi, et dont elle parut fort embarrassée. Elle ne savait visiblement qu'en faire, mais qui aurait osé le lui reprendre. Toujours est-il qu'elle le garda, et je la vois encore tenant ce képi, qui faisait une tache rutilante sur sa robe de deuil, et descendant toute raide, toute seule, vers la porte du cimetière. Je la connaissais pour être allé la voir une fois au Vésiné. Je lui serrai la main au passage en silence. Je ne crois pas qu'elle m'ait reconnu. Je ne l'ai jamais vue. Mais elle m'a écrit dans la suite plusieurs fois. C'était une femme d'un caractère difficile dont le pauvre Guillaume avait une peur bleue. Nous la suivîmes de loin, groupés autour de Jacqueline, et chacun rentra chez soi. Je ne crois pas qu'il y ait eu un de ces déjeuners où les survivants essaient de réagir contre la tristesse de la séparation. Mais depuis lors, chaque année, régulièrement, les anciens et les nouveaux amis d'Apollinaire se réunissent sur sa tombe le jour anniversaire de sa mort. Ils n'y ont jamais manqué et il n'y a jamais été prononcé de discours. Un discours sur la tombe d'Apollinaire nous apparaîtrait comme une chose absurde, dénuée de toute signification et presque inconvenante. Comme quoi, jusque dans la tombe, notre cher Guillaume garde une physionomie à part. Il est certainement le seul grand poète sur la tombe de qui des orateurs n'ont jamais pris la parole.
Merci infiniment, Monsieur André Billy. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre éminent témoin?
Absolument. Je voudrais savoir ce que André Billy dit en ce qui concerne l'Apollinaire, qu'il aimait l'armée héréditairement. Est-ce que vous pouvez nous le dire?
Parce qu'il avait un grand-père polonais qui avait été camérier de cap et d'épée du pape. Ce qui est peut-être militaire, je n'en sais trop rien, mais enfin cette épée me paraît assez militaire. Dans son ascendance d'ailleurs, il avait des militaires authentiques. Et puis enfin, son père, sur lequel on n'a naturellement aucune certitude, mais qui semble bien avoir été capitaine et Apollinaire. D'ailleurs, il laissait dire qu'il était le fils d'un prélat, oui. Mais il se vantait de son courage militaire, enfin de ses ascendants polonais militaires.
Ah, on le voit d'ailleurs dans les lettres du front et du dépôt qu'il a écrites, n'est-ce pas? Oh, ouais. Où il a presque une espèce de plaisir enfantin à dire « je suis maréchal des logis, je suis artilleur », etc., dans des termes admirables.
Il a chanté la guerre comme personne ne l'a chanté, il a vu une féerie, il a vu une fête, jusqu'au jour où il a passé dans l'infanterie.
Oui.
Moi, je voudrais savoir pourquoi il avait une peur bleue de sa mère.
Ah, parce qu'elle était une Polonaise épouvantable.
Vous savez,
elle avait un caractère tumultueux, elle était irascible, elle terrorisait le pauvre
Guillaume. Elle était belle, moi j'ai vu les portraits d'elle dans des biographies de Guillaume Apollinaire, elle était assez belle, n'est-ce pas?
Oui,
le photographe l'avait arrangé les choses.
Elle avait une vie très agitée, qu'elle n'aurait pas. Elle avait certainement une vie beaucoup plus calme si elle avait été laide.
Oui. Enfin, il vaut tout de même mieux être bien.
Oui.
Que qu'on le fait. Oui.
Mais je crois que la légende de l'ascendance ecclésiastique d'Apollinaire a été accrue par le fait qu'il a fait ses études dans un collège religieux de Monaco, je crois, et études qui étaient, paraît-il, m'a-t-on dit, c'est Pierre Bertin qui me l'a dit, payées par une caisse ecclésiastique.
Ah, une caisse ecclésiastique.
Non.
Je n'ai plus tout ça très présent, parce que d'ailleurs, discuté et pas très sûr, mais enfin, non, il y avait un ecclésiastique qui... c'était pas une caisse ecclésiastique, c'était un ecclésiastique qui subvenait à vos frais de ses études.
Mais qui servait peut-être moins à la terre.
Et des études de son frère, d'ailleurs. Des études de son frère, Albert, également, oui.
Et dites-moi, ça fait deux ou trois fois que revient le mot « légende ». Est-ce que je pourrais vous demander, non pas de vous expliquer, mais d'insister là-dessus, surtout s'il y a une légende Apollinaire, comment, à partir de quand est-elle née?
Eh bien, mon Dieu, je dois dire... sans forcer trop ma pensée, n'est-ce pas, que la première fois que je l'ai vu, il m'a paru déjà légendaire. C'était, ça remonte loin, ça remonte à 1903. La première soirée que j'ai vu Apollinaire, que j'ai causé avec lui toute la soirée, d'ailleurs il y avait la Salmon, il n'y avait pas Max Jacob, on ne le connaissait pas encore. Il y avait un poète, Nicolas Nicker, bien oublié. Cette première soirée-là, Apollinaire m'a paru déjà un personnage tout à fait hors du commun. C'est difficile à dire, mais il avait une autorité... et un mélange d'autorité, de bonhomie, de bonne grâce et de prestige, enfin malgré son jeune âge. Quel âge avait-il? Il avait 23 ans. Oui. C'était déjà un homme tout à fait hors du commun. Sa légende s'est développée, il l'a encouragé. À ce moment, il racontait beaucoup de choses. Il avait le goût de la légende, d'ailleurs, lui.
Et il exerçait sur tous les gens qu'il rencontrait.
Une fascination.
C'est incontestable.
Oui, et cette fascination, c'est depuis sa mort répandue, et maintenant c'est vraiment...
Oui, les amis, n'est-ce pas, se sont fait un devoir, on dit qu'ils... de la prolonger, c'est de la faire comprendre, en tout cas.
Et puis alors son œuvre qui est devenue beaucoup plus, n'est-ce pas, qu'on a beaucoup mieux connue. Puis alors cet extraordinaire amour pendant la guerre, ses lettres à cette personne, qu'il avait vue deux fois ou trois fois, je crois, n'est-ce pas, et qu'il écrivait ses lettres passionnées. Enfin, c'est extraordinaire, cette correspondance.
Madeleine Pagès,
oui. N'est-ce pas, d'avoir construit...
Il est allé voir à Oran.
Et alors, évidemment, les lettres ont été beaucoup moins passionnées.
Le mariage n'a pas eu lieu, il avait promis, ben ça...
Oui.
Est-ce que vous avez l'impression que la personne qui porte un très ancien nom français, du gratin, se rendait compte que ses lettres étaient écrites par un très grand poète?
Je ne crois pas.
Hein?
Je ne le crois
celle qu'il appelle Lou.
Oui.
Hein? Je ne le crois pas. La plus vieille noblesse d'Europe, disait-il.
Oui.
Je ne sais pas si c'est la plus vieille noblesse d'Europe. Tout le monde connaît le nom. Moi, je ne le dirai pas au micro, puisqu'il est encore admis qu'on ne doit pas le dire. Mais enfin...
Elles sont magnifiques, ces lettres à Lou, d'ailleurs.
Oui.
On a l'impression d'un amour beaucoup plus vrai, alors là, que l'amour à Madeleine, vous ne croyez pas?
C'est un amour sensuel, n'est-ce
pas?
Purement sensuel, c'était une flambée, je prends en tout cas une flambée de sa part à elle.
De sa part à elle,
Lui n'aurait demandé qu'à prolonger, naturellement, mais elle, je crois qu'elle a été déçue, enfin, je ne sais pas, elle n'a jamais dit.
C'était plus la légende, c'était la réalité.
C'était la réalité, oui.
Nous allons maintenant avoir le plaisir de recueillir le témoignage de Madame Louise Weiss, qui a très bien connu Guillaume Apollinaire, qui était, je crois, un de vos collaborateurs.
Oui, il était chargé de la rubrique des échos littéraires, dans la revue L'Europe Nouvelle, qui était surtout une revue politique que je dirigeais alors. Alors je le voyais continuellement, il venait nous apporter des échos cinglants d'ailleurs, sur tout le monde parisien. Et nous l'avions chargé... je l'avais chargé particulièrement, de nous signaler tous les artistes nouveaux, tous les mouvements qui allaient naître au point de vue artistique du bouleversement de la guerre. Et c'est ainsi, grâce à Apollinaire, qui avait une intuition extraordinaire de la beauté, que nous nous sommes fait les turiféraires des fauves, des cubistes, de Picasso, de Marinetti, et qui étaient alors très peu connus. C'est en somme à Apollinaire que nous devons, je crois, d'avoir joué ce rôle, qui a continué après lui, dans le monde des lettres d'alors.
Mais en somme, s'il était le collaborateur de votre revue, vous avez été en contact avec lui jusqu'à ces derniers moments.
Ah oui, je suis allée saluer sa dépouille funèbre dans son appartement du boulevard Saint-Germain, qui était d'ailleurs mitoyen de celui de Mardrus, avec lequel il avait des disputes de mitoyenneté violentes, dont il venait de vous entretenir d'une voix exaspérée, en tremblant d'indignation contre le traducteur des Mille et Une Nuits.
Oui, et il y a une histoire d'échange, de dédicace qui est assez savoureuse.
Oui, ces deux hommes se respectaient d'ailleurs infiniment au point de vue intellectuel. Ils savaient à qui ils avaient affaire, en parlant mal l'un de l'autre. Un jour, Mardrus a envoyé un de ses livres à Apollinaire avec une dédicace, lui signifiant qu'il avait usurpé, en somme, à tort, le nom du roi du soleil, Apollon. Une dédicace assez injurieuse, à laquelle d'ailleurs Guillaume Apollinaire a répondu devant moi en lui envoyant son plus récent volume de vers et en le dédicaçant ainsi au docteur Mardrus, à mon voisin dont le nom s'écrit avec plus de 5 lettres. C'était des amitiés qu'ils échangeaient alors. Et j'ai trouvé Mardrus triomphant après la mort d'Apollinaire.
En me disant,
moi, je mourrai quand je voudrais.
À quel âge est-il?
Moi, je me rappelle que Mardrus m'avait sidéré, en effet, parce, en me disant, il faut être idiot pour mourir, moi, je ne mourrai jamais.
Mais moi, je l'ai vu à la terrasse des Domingo, Mardrus, et il m'a dit la même chose. Et il m'a dit, d'ailleurs, j'ai une petite boîte avec un produit, et c'est ça qui fait que je ne mourrai jamais. Je lui ai dit, mais vous ne pourriez pas mettre ça dans le domaine public, votre petit produit? Ah, il m'a dit, non, jamais, parce que si tout le monde était éternel, je serais très ennuyé, avec moi, je ne mourrai jamais. Et j'ai fini par croire qu'il ne mourrait pas, il meurt très vieux, d'ailleurs, je crois,
docteur Mardrus. Et très fatigué.
Ah, c'était la boîte.
Bon. Mais pour en revenir à Apollinaire, nous savions très bien, le jour de sa mort, à qui nous avions eu affaire, c'est-à-dire à un génie poétique, à un homme d'une fascination extraordinaire, et nous savions, en saluant sa dépouille mortelle, que nous avions eu affaire à un incomparable poète assassiné. Déjà à ce moment-là, alors que, justement, mes collaborateurs Louis Chadourne et André Salmon, qui ont écrit les éloges funèbres d'Apollinaire dans la revue L'Europe Nouvelle, on dit qu'il n'était pas encore classé dans le chin des lettres, je reprends ces termes, mais il pensait qu'Apollinaire triompherait de l'oubli bien plus sûrement que les gloires patentées d'alors.
Mais c'est ce qui est arrivé d'ailleurs.
Oui, évidemment. Il est resté dans notre souvenir extrêmement vivant.
Mais vous nous avez dit que vous étiez allé saluer sa dépouille, mais je vous posais la question de savoir si vous aviez reçu une dernière chronique alors qu'il était déjà malade.
Oui, il nous avait écrit de son lit, où la fièvre le clouait, une dernière chronique que nous avons publiée sous le nom de L'Écolâtre, qui était son pseudonyme qu'il avait choisi, on ne sait pas trop pourquoi, pour se moquer peut-être un peu de lui-même, mais où il faisait preuve d'une science de l'histoire et d'un goût littéraire extraordinaire.
Eh bien, merci infiniment, Madame Louise Weil. Eh bien, mes chers amis, je me tourne maintenant vers vous. Vous venez d'entendre ces quelques témoignages sur les obsèques de Guillaume Apollinaire qui se sont déroulées dans une atmosphère tellement extraordinaire et sur le grand poète lui-même. Et je voudrais savoir quelles impressions vous avez retirées de la confrontation de ces divers témoignages. Chère Simone.
Eh bien, il y a une chose d'abord qui s'impose, c'est l'unité absolue des témoignages quant à l'amour qu'il s'avait inspiré à ses amis. C'est extrêmement frappant de voir quel attachement profond et des personnages aussi différents qu'André Billy, Blessandrard et Salmon, par exemple, ont ressenti au moment où ils ont perdu Guillaume Apollinaire. Enfin, on semble que pour tous les trois, ça a été une espèce de perte qui tenait même au fondement de leur existence. Enfin, c'était quelque chose vraiment qui s'écroulait en eux au moment où il est rare d'entendre parler de la mort d'un ami de cette manière. Avec cette unanimité. Et tous les trois semblent être d'accord pour parler d'une espèce de fascination qu'il exerçait, non seulement par son art, mais par sa personne, par sa conversation et la fantaisie de son existence.
Oui, c'est là-dessus que les témoignages concordent. Ils concordent toujours plus facilement, du reste, sur quelque chose de
sur
passionnel.
Sur un sentiment que sur des faits. Enfin, il semble bien qu'on était d'accord tout de même sur les dates.
Mais... Dans la légende de Guillaume Apollinaire, légende à laquelle je croyais jusqu'à ce jour, il était dit qu'il avait,
Été enterré le jour de l'armistice. Oui. Eh bien, je savais en effet qu'il n'avait pas été enterré le jour de l'armistice, et là, tout le monde est d'accord aussi. Oui. Mais ce qu'ils ont voulu dire par là, c'est que tout de même, ce que la légende a voulu retenir, c'est-à-dire Baba Guillaume, alors que ça s'adressait à Guillaume II, et qui s'appelait Guillaume, ceci aussi était un fait, parce que probablement qu'en effet, le 12 ou le 13, on continuait à crier Abba Guillaume. Oui.
Mais sur le plan des témoignages matériels, il y a une chose qui m'a tout de même assez frappé, c'est que la plupart des gens qui ont assisté à l'enterrement de Guillaume Apollinaire, et même certaines chroniques, donnaient les noms des personnes qui étaient là.
Oui.
Et il y avait l'unanimité des témoignages, disait que Paul Fort y était. Alors j'ai demandé à Paul Fort de venir, il m'a dit, mais pas du tout, j'étais même pas en France à ce moment-là.
Ah oui.
Comme quoi, sur un fait précis, là, il y a une unanimité, puis c'est pas vrai.
Paul Fort, puisque vous parlez de lui, m'a parlé aussi d'Apollinaire et m'a fait remarquer quelque chose que certains témoignages semblent maintenant confirmer. C'est cette action qu'Apollinaire exerçait, en effet, cette sorte de fascination.
Fascination.
Mais qu'il aimait exercer. Et Paul Fort me
faisait remarquer. Ah, mais je ne veux pas qu'on l'exerce, on l'exerce que si on aime ça. Vous ne croyez pas?
Ça, j'en suis persuadé.
Je crois que ceux qui exercent ça sont, enfin, ce qu'on appelle des chefs d'école, enfin, dans l'ordre intellectuel, ou ce qu'on appelle, en effet, quelqu'un, le chef de la bande, quand les jeunes gens se réunissent en bande, enfin, tout ça, c'est quelqu'un qui aime prendre le commandement d'une manière ou d'une autre, qui aime séduire, qui aime fasciner, qui aime ordonner, qui aime régner.
Et puis même dans son physique, n'est-ce pas, c'était un homme grand et gros,
oui.
Et fort, majestueux.
Oui.
Tous les gens qui m'en ont parlé m'ont toujours dit, par exemple, Derain, par exemple Picasso, par exemple Max Jacob, qui l'ont beaucoup aimé tous les trois, m'ont dit tous les trois, il était majestueux, n'est-ce pas? Il avait cet air un peu justement d'un prince oriental qui tenait à son ascendance polonaise, n'est-ce pas? Il avait cette chose physique d'abord, et puis en plus il leur en a posé parce qu'il avait le succès par le journalisme, et ensuite parce qu'il sentait que c'était un homme d'une personnalité
et
d'une qualité tellement exceptionnelle qu'ils étaient tout prêts, même ces grands artistes, à le suivre et en être influencés.
Oui, oui, à lui obéir, mentalement.
Et d'ailleurs, je crois qu'Apollinaire, à un certain moment de sa vie, avait été en relation avec les milieux de bourse, je crois même qu'il a exercé des fonctions à la bourse, vraisemblablement pour gagner sa vie, qu'il avait été, à son tour, fasciné par la puissance de l'argent.
Ah oui.
Qu'il sentait naître, et il avait même pressenti l'importance qu'elle aurait dans le monde qui suivrait la guerre. Et il y avait, chez Apollinaire, et je crois que si certains des poètes sont ensuite devenus d'assez brillants journalistes, et des journalistes internationaux, il y avait eu déjà, chez Apollinaire, ce même désir. Et cette fascination, cet ascendant qu'il exerçait sur ses amis, était sans doute quelque chose qui lui était naturel, mais qui représentait peut-être même un exercice, car il avait un désir réel d'être un conducteur d'opinion.
Ah oui.
Et ce que disait Louise Weiss était vrai dans la découverte des écoles nouvelles.
Et quel sentiment il a eu de la perfection en art. Enfin, il ne s'est pas trompé, comme il a été vraiment où il fallait aller, comme les noms qu'il cite, les noms qu'il aime, enfin, les gens qu'il a, on ne peut pas dire découvert, mais tout de même qu'il a soutenu de son autorité, de sa jeune autorité, c'était tout de même les grands noms d'aujourd'hui.
Oui, il a eu une intuition réelle, mais je crois qu'il avait aussi l'évaluation exacte de la valeur, de la sécurité de son intuition, et qu'il entendait même dans l'avenir la développer.
Oui, parfaitement.
Il y a une chose aussi dans ce qui concerne la personnalité d'Apollinaire que les témoins que nous avons entendus nous ont laissé soupçonner, c'est cette espèce d'amour de l'armée. Cet homme qui n'était pas français et comme Blaise Cendrars, qui également, comme Suisse, a perdu un bras dans l'armée française, ce sont des gens qui avaient un amour de la France et un amour de l'armée française.
Oui.
Il était très content d'être officier français. Et cet amour qu'on retrouve dans ses lettres du front, eh bien, tout de même, sa mort est quelque chose d'admirable dans ce sens, c'est qu'il a été frappé au front, à son propre front, une tranchée, c'est vraiment le poète assassiné,
et
mourant avec le drapeau tricolore sur son cercueil, un piquet de soldats l'accompagnant au cimetière,
et ce
képi qu'il avait acheté auparavant, tellement il était heureux à l'idée d'être nommé sous-lieutenant. Il y a ça chez lui qui est très
singulier
et caractéristique.
Oui, parce que quand il y a ça chez Peggy, c'est trop naturel étant
donné
qu'il sort du sol français. Mais là, en effet, chez Cendrars et chez Apollinaire, c'est intéressant puisque tous les deux n'étaient pas français.
Enfin, il n'aura pas eu le temps d'être le conducteur d'opinion qu'il souhaitait d'être, mais il a été tout de même.
Il a été dans une certaine mesure.
Il a été un chef d'école.
Certainement.
Chef d'école poétique jusqu'à maintenant. Oui.
C'était Soyez témoin, une émission d'André Gidois. Avec Madame Simone, Jean-Pierre Morphée, Jean Oberlé. Et ce soir, André Billy de l'Académie Goncourt, Blaise Sandrard, Raymond, André Salmon et Louise Weiss. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morphée. Montage radiophonique de Jacques Guinchard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 6 avril 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».